Le texte qui fait l'objet de notre méditation en ce matin est tiré du livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 42 au verset 47. Il a pour thème les quatre roues du chrétien. Et le prédicateur, c'est notre révérend docteur Daniel Youn. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour lui? Alléluia. Alléluia. Et la lecture nous sera faite par la diaconesse Flore. Amen.
Les voitures avancent avec des quatre roues. Et s'il y a une crevaison, une voiture ne peut pas avancer. Les chrétiens marchent avec quatre roues. S'il y a une crevaison, les chrétiens ne peuvent pas avancer. Le texte ce matin nous montre clairement les quatre roues des chrétiens. La première roue, c'est la parole. Verset 42 dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » Les nouveaux chrétiens s'efforçaient et persévéraient dans la parole de Dieu. Ceux qui sont sauvés désirent toujours ardemment la parole de Dieu. Voilà 1 Pierre 2:2. Nous lisons tous ensemble. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés, un bébé. Il désire ardemment le lait. Le matin, le soir, dans la nuit, combien de fois par jour, même 10 fois. Ainsi, un bébé grandit. Un chrétien, pour grandir, s'il veut grandir, il faut manger la nourriture, le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Nous voyons ici un Éthiopien. Dans Acte 8, il est venu adorer Dieu en Jérusalem. En se retournant, dans son chat, assis sur son chat, il lisait le prophète Ésaïe, la parole de Dieu. La route n'est pas goudronnée. C'était le désert. Il y a des poussières. Le chat balance. Il est difficile de lire un livre dans son chat sur la route mauvaise. Surtout, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. C'est difficile. Il y a le soleil, il y a la poussière, son chat balance, et en plus, il ne comprenait pas. Mais il persévérait dans la lecture de la Bible. Notre Dieu était très touché par cet homme. Voilà celui qui aime ma parole. La Bible dit, celui qui aime la parole est celui qui m'aime. Il dit à son serviteur Philippe, va là-bas. va voir un moussu. La distance que Philippe devait se déplacer était au moins 100 kilomètres. Il n'y avait pas la voiture. Il devait marcher à pied au moins 3 jours pour arriver à cet Éthiopien. Pourquoi? Philippe était très occupé, évangélisé partout. Mais Dieu dit, va voir cet homme. Un homme qui désirait la parole. Cet homme, il a compris la parole de Dieu. Il a accepté Jésus-Christ. Il s'est baptisé. Il s'est retourné dans son pays, Éthiopie. L'histoire de l'Église dit, il a évangélisé son peuple, même la reine. Il est devenu le premier chrétien païen, un homme spécial. Et il a changé son pays. Mais bien aimé, si tu aimes la parole, Dieu t'aime. Si tu aimes la parole, Dieu te bénit d'une manière extraordinaire. Lorsqu'Israël a été attaqué par l'ennemi, Jérusalem a été occupé. Le peuple, le roi et ses enfants, ils ont été en captivité. Jérusalem a été brûlé. Le muraille a été détruit. Le temple a été brûlé. C'était une crise que le pays d'Israël, le peuple juif, pouvait disparaître de l'histoire humaine. Dans cette crise, Esdras savait exactement la clé. Comment rétablir Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Si nous lisons Néhémie 8, verset 3, il lisait la parole de Dieu devant les hommes, devant les femmes, devant ceux qui sont capables d'entendre. De 6h matin jusqu'à midi, pendant 6h de temps, pendant 7 jours, une semaine, il lisait la parole. Il expliquait la parole. Les enfants d'Israël ont été tellement touchés. Ils se sont repentis. Ils pleuraient. Et ils sont revenus à Dieu. Si Esra n'était pas là pour lire la parole avec eux, le pays d'Israël ne peut pas exister aujourd'hui. Nous voyons ici la puissance de la parole. Quelle crise est-ce que tu as? Quel problème est-ce que tu as? Il y a la clé pour rétablir ta vie. C'est la parole de Dieu. Lis la parole comme Esdras tous les jours. Et tu verras comment la main de Dieu sera avec toi. Nous allons lire ensemble Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia! Comment prospérer? Comment réussir dans nos entreprises? Médite la parole jour et nuit. Dieu sera avec toi. Tu vas prospérer. Tu vas réussir. Voilà, c'est le secret et la promesse que Dieu nous a donnée. La deuxième roue, c'est quoi? La deuxième roue du chrétien, c'est quoi? C'est la communion fraternelle. Verset 42 dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Que signifie la communion? Si nous lisons 1 Jean 1, 3, la communion fraternelle du chrétien est d'avoir une relation intime avec Dieu et aussi avec les autres chrétiens. C'est la communion fraternelle du chrétien. D'abord, avoir une bonne relation intime, une relation intime, verticale, avec Dieu. Et avec ça, nous devons avoir aussi une bonne relation horizontale avec les autres chrétiens. C'est la communion. Nous voyons ici l'avantage de la communion dans Ecclésiaste chapitre 4. Il y a trois avantages de la communion. Le premier avantage est que si un parmi nous tombe, l'autre peut le relever. Mais si tu es seul, tu es tombé dans un puits profond, tu ne peux pas t'en sortir. Quelqu'un est tombé, ton frère va le relever, te relever. Deuxième avantage, en Palestine, dans la nuit, il fait très froid. Si tu couches seul, tu auras trop froid. Mais si tu es avec un autre frère, tu auras chaud, tu auras la chaleur. Quand tu voyages dans le village, souvent tu vois le bois de chauffage dans le feu. Et nous sommes là dans la nuit autour de ce bois de chauffage. Voilà un bois qui est dans le flamme. On le met à côté, séparé avec des autres bois. C'est comment? Le feu s'éteint. Mais souvent, quand on le remet dans le feu avec les autres, ça commence à brûler. Un chrétien solitaire, un chrétien isolé, il marche seul, il vient à l'église seul, il retourne seul, il n'a pas aucune communion. Son feu peut s'éteindre. Il peut refroidir. Il peut retourner dans le monde au diable. Quoique tu es faible, quoique tu es refroidi, si tu es toujours avec les autres chrétiens, tu seras chauffé, tu seras brûlé, il y aura la flamme. C'est l'avantage de la communion. Troisième avantage, ce qui est écrit ici dans le 12, si nous sommes ensemble, on peut résister à celui qui est fort, savoir même Satan diable. Tu vois comment les lions attaquent les animaux. Ils poursuivent d'abord. Les animaux, on peut, ils sont dispersés. Mais les lions attaquent toujours un animal isolé, un animal qui court seul vers une direction. Si vous courez ensemble, le lion ne peut pas t'attaquer. Il cherche toujours une victime qui est isolée. Judas Iscariote, dans la nuit, il est sorti seul, tandis que les autres étaient là. Thomas, il est sorti seul lorsque les autres étaient là. Si tu es un chrétien isolé, tu es en danger. Parce que la Bible dit que Dieu, il assemble, mais diable, il disperse. Mais bien aimé, voilà Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celle qui n'assemble pas avec moi disperse. Notre Dieu assemble. Voilà une assemblée. Mais diable, dispersé, va là-bas, va au marché, va au stade, va visiter quelqu'un. Il disperse toujours afin que les chrétiens ne soient pas ensemble. C'est la ruse du diable. Nous lisons ensemble Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenant les nourritures avec joie et simplicité du cœur. Ils étaient tous ensemble dans le temple, dans les maisons. Les chrétiens étaient toujours ensemble. L'Église a organisé petite famille, J12, groupe de 12 personnes. Il y a chorale Alléluia, Hosanna, groupe musical, groupe des jeunes, femmes, hommes. Il y a beaucoup de petits groupes dans l'église. Une petite famille dans l'église. Tu es dans quel groupe? Est-ce que tu es seul? Tu n'as pas aucun groupe? Tu n'appartiens pas à aucun petit groupe dans l'église? Donc tu es un orphelin. Un orphelin spirituel. Tu marches seul, mes bien-aimés. Une vie chrétienne est impossible de marcher seul. Comme mariage n'est pas possible avec une seule personne. La vie chrétienne n'est pas possible si tu marches seul. Nous sommes plus un orphelin. Appartient à un groupe, J12, groupe de jeunes, femmes, hommes, chorale, groupe musical, tu dois avoir ta petite famille dans la maison de Dieu. Sinon, tu peux refroidir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te réchauffer. Tu peux tomber. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te relever. Tu peux attaquer par le diable. Il n'y a pas quelqu'un qui peut défendre avec toi. La communion est essentielle pour une vie chrétienne. La troisième roue, c'est quoi? La prière. Verset 42. Ils persévéraient dans les prières. Le Seigneur nous a promis, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est sa promesse. La prière, c'est un privilège merveilleux des chrétiens. Parce que le Seigneur dit, si tu demandes dans mon nom, je te donne, je te fais. Quel privilège! Si tu n'expérimentes pas la puissance de la prière, ni la réponse de la prière, tu n'appliques pas le privilège du chrétien. Mais bien aimé, nous avons ce privilège merveilleux. Tout ce que nous demandons en nom de Jésus, Jésus nous donne. Alléluia. Il faut utiliser, profiter de ce privilège. Pourquoi décourager? Pourquoi douter? Pourquoi murmurer? Pourquoi échouer? Pourquoi tomber? Sans appliquer cette clé de la prière. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Nous lisons ensemble. Priez sans cesse. C'est pour cela que nous disons que la prière, c'est la respiration du chrétien. Priez sans cesse. Nous respirons sans cesse. Si nous arrêtons la respiration pendant quelques minutes, nous mourons. C'est la prière. Non seulement ici pendant nos cultes, en marchant, en travaillant, en faisant quelque chose, nous prions toujours. Seigneur, aide-moi, fais ceci pour moi. Prier, c'est la respiration. Par la respiration, on expire mauvais air qui est dans mon cœur. Et on aspire le bon air dans notre corps. Renvoyer mauvais air et aspirer bon air. Voilà, c'est la respiration. Par la prière, par la prière de repentance, on expie le péché, ce qui est mauvais dans nos cœurs. Par la prière, on aspire la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, le miracle de Dieu, la sagesse de Dieu. Voilà la respiration du chrétien. Par cela, nous allons maintenir toujours une bonne santé. Mais le problème de la prière est que, oh pasteur, j'ai prié, mais il n'y a pas la réponse. Je suis découragé parce que Dieu n'écoute pas ma prière. Tu as une telle expérience, n'est-ce pas? Tu as prié, tu as demandé à Dieu, mais il n'y a pas une réponse. Tu dis que oh, ça ne vaut pas la peine de prier parce que quand je prie, il n'y a pas une réponse. Oui, c'est la difficulté de la prière qui nous décourage. Mais nous avons un bon exemple de ce problème. George Müller. Nous disons dans l'histoire du christianisme, c'est lui qui a un modèle de la prière. Il a reçu 50 000 réponses de la prière dans sa vie. Il a nourri et élevé 150 000 orphelins. Il a fait le plus grand orphelinat dans le monde entier. Il s'appelait le père d'orphelin. Il a nourri 150. Mais ce n'est pas facile parce que ce n'est pas une grande société ou un pays qui l'a aidé. C'est le vent par la prière. Il a pu élever 150 000 orphelins. Un jour, il a commencé à prier pour la conversion de cinq amis. Après 18 mois de la prière, le premier ami a accepté Jésus. Après 5 ans de prière, deuxième ami a accepté Jésus. Après 6 ans de prière, troisième ami a accepté Jésus. Il a prié pour 5 amis pendant 52 ans. Quand il est mort, parmi 5, 3 ont accepté Jésus, 2 restaient encore incrédules. Le jour de son funérail, 4e ami s'est repenti et a accepté Jésus. Quelques mois après, le dernier ami s'est repenti, accepté Jésus. Mais après sa mort, sa prière a tout exaucé. Il dit, prier correctement, ça ne suffit pas. Prier pendant quelque temps, ça ne suffit pas. Il faut prier jusqu'à ce que la prière soit exaucée, dit-il. Quand les journalistes lui ont posé la question, « Oh, quand tu pries, il y a la réponse toujours, donne-nous le secret. Comment est-ce que notre prière peut être exaucée ?» Il dit, « Le secret d'exaucement de la prière est que prier jusqu'à ce que ta prière soit exaucée. » Alléluia. C'était sa réponse. Mais bien aimé, c'est vrai. Si nous prions jusqu'au jour d'exaucement, toutes nos prières seront exaucées. Quatrième rôle des chrétiens, c'est l'évangélisation. Verset 47 dit, Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils ont évangélisé, ils ont invité les familles, les amis à l'église. L'église Jérusalem a grandi tous les jours. Seigneur a demandé à ses disciples, juste avant de monter au ciel. Acte 1:8, nous lisons ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église grandissait tous les jours, 3000 fidèles, 5000 fidèles. L'Église de Jérusalem a été très contente. Oh, Dieu nous a bénis. Mais ils étaient toujours à Jérusalem. Ils évangélisaient seulement Jérusalem. Ils n'ont pas avancé vers Judée, Samarie, extrémité de la terre. Mais bien aimé, Dieu n'était pas content. Il voulait que l'Évangile soit propagé partout dans le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé une grande persécution à Jérusalem, à l'église de Jérusalem. Quel était le résultat? Nous lisons Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et la Samarie. Dieu les a demandé d'aller Judée et Samarie prêcher la parole. Ils sont non, nous sommes en Jérusalem, nous sommes très contents. Jérusalem, 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 Jérusalem. Ah oui, envoyer une grande persécution, disperser tous les chrétiens. Ils devaient fuir. Ils sont allés où? Judée, Samarie. Comme ça, l'église antiochienne. Nous voyons le désir ardent de Dieu. Même en envoyant la persécution à son église, il voulait que les chrétiens évangélisent. Si, lorsqu'ils n'ont pas obéi à Acte 1:8, Dieu l'a forcé par Acte 8:1, d'accomplir Acte 1:8. Romains 10, 14, 15 dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ils sont beaux de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Est-ce que tes pieds sont beaux? Tu ne parles pas des chaussures. Tes pieds vont où? La Bible dit qu'ils sont beaux de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Si avec tes pieds tu annonces des bonnes nouvelles, Dieu te bénit. Dieu t'aime d'une manière particulière. Évangélisation, c'est une exercice des chrétiens. Nous devons faire le sport chaque jour pour maintenir la santé physique. L'exercice des chrétiens, c'est quoi? Évangélisation. Pour évangéliser, nous devons marcher, nous devons aller, nous devons visiter, nous devons aller loin. Voilà l'exercice des chrétiens. Tu manges bien la nourriture, la parole de Dieu. Tu respires bien par la prière. Tu as une communion fraternelle. Mais tu es sur place sans faire exercice chrétien. Évangélisation, c'est l'exercice du chrétien. Voilà les quatre roues. Les chrétiens avancent avec les quatre roues. Quelle roue? Première roue, la parole, la nourriture. Deuxième roue, la communion qui est la famille. Troisième roue, la prière et c'est la respiration. Quatrième roue, l'évangélisation qui est exercice des chrétiens. Est-ce que tes quatre roues sont bien? Est-ce que tu n'as pas une crevaison? Tu ne peux pas avancer. Répare ta crevaison. Répare ta roue. Afin que tu puisses avancer pour la gloire de Dieu. Nous allons tous prier ensemble, Seigneur. n'est pas mon eau, n'est pas la crevaison, c'est la crevaison, prions ensemble. Seigneur, bénis tous tes enfants ce matin par cette parole. Oh Seigneur, tu nous as accordé ces quatre roues pour que nous soyons des chrétiens réussis, des chrétiens forts, des soldats de Christ. Bénis tous tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, avancer, sans reculer, sans tomber, sans se décourager, sans murmurer, oh, sans douter. Bénis tous tes enfants, Seigneur, par cette parole de Dieu, afin que tous tes enfants avancent avec ces quatre chrétiens. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.